Bonsoir. Dans ce siècle pervers, en ces jours mauvais où l'Église s'acquiert une grandeur future par son humiliation présente, s'instruit par l'aiguillon de la crainte, les angoisses de la douleur, les fatigues des travaux, des dangers, des tentations, et ne se réjouit qu'en espérance, si du moins elle se réjouit, beaucoup de réprouvés sont mêlés au juste. Ils nagent pêle-mêle jusqu'au moment où, abordant au rivage, les mauvais seront séparés des bons, et dans les bons, comme dans son temple, Dieu sera tout en tous. Ce texte est tiré de la Cité de Dieu de saint Augustin d'Hippone. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Étienne de Blois qui est désormais le coordinateur des mardis des titres publics et qui est étudiant au Centre Sèvres. Mais il semble plus actuel que jamais, même s'il montre que l'Église a traversé de multiples crises dans sa longue histoire. Il n'empêche, la crise que nous traversons aujourd'hui, ce scandale des abus sexuels, mais aussi de pouvoir et de conscience, pointé il y a déjà 4 ans par le pape François dans sa lettre au peuple de Dieu, nous contraignent à changer. L'Église est contrainte à la réforme. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir 4 intervenants, donc 2 personnes qui sont directement impliquées dans les travaux de post-SIAZ et 2 étudiants au Centre Sèvres qui poseront les questions après l'intervention de nos 2 intervenants extérieurs. Mais je vous les présenter. D'abord, Christine Danel, vous avez 55 ans. Vous êtes supérieure générale des Xavières, une congrégation religieuse apostolique de spiritualité ignatienne créée il y a 101 ans à Marseille. Vous avez grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire, jusqu'à l'âge de 15 ans, puis vous avez fait des études de médecine. À 26 ans, vous êtes entrée chez les Xavières et vous êtes repartie en Côte d'Ivoire pour coordonner avec d'autres un site de l'ANRS, l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales. Vous avez mené des programmes de recherche clinique sur le VIH, le virus Ebola, l'hépatite B. Vous êtes par exemple occupé durant les 15 ans de l'évaluation de la stratégie thérapeutique sur des cohortes de 840 puis 2000 patients, surtout des femmes, à la différence des pays développés. Ça vous a évidemment beaucoup plu, car vous travaillez sur une question de société très importante, le VIH, et vous cherchiez à prendre en compte les spécificités des patients africains. En résumé, une recherche qui, je vous cite, « sert les personnes ». Après avoir passé de nouveau 15 ans en Afrique, vous êtes rentré en France en 2015 et en 2017, vous avez été élu supérieur général des Xavières. Vous avez donc démissionné de votre travail, vous avez quand même gardé une petite consultation à l'hôpital Bichat. Vous pratiquez quand vous pouvez. Les Xavières, ce sont 110 religieuses, essentiellement en France, dans 12 communautés, dont une s'occupe notamment de l'animation de la maison Jeanne Garnier, de soins palliatifs à Paris, mais aussi 3 en Côte d'Ivoire, 1 au Tchad, 1 au Cameroun et 1 au Canada. Votre mission, les Xavières, dites-vous, c'est de faire le lien entre l'Église et ceux qui sont loin. D'où le fait que vous ne portez pas une habite religieuse, et vous travaillez dans des milieux très divers. Vous voulez, je cite, « créer des ponts, porter un regard bienveillant sur le monde où Dieu travaille déjà ». Vous êtes par ailleurs au conseil d'administration de la COREF, donc les ordres religieux, et délégué de la COREF à Promesses d'Église, qui regroupe les mouvements d'Église. Vous participez au groupe post-SIAZ de la COREF sur les questions de gouvernance. Et donc ça sera intéressant de vous avoir sur ces questions. Et vous signalez la présentation demain, ici même, du livre « J'écouterai leurs cris, 5 regards de femmes sur la crise des abus ». Il y a 2 théologiennes, une bibliste, une criminologue et une philosophe qui portent le regard sur la crise des abus de l'Église. Bertrand Guélichon, vous avez 67 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants. Après une carrière de médecin urgentiste et libéral, vous êtes désormais un retraité qui travaille, puisque vous assurez des vacations au SAMU social, ainsi qu'une consultation dans le cadre du PASS, le programme d'accès aux soins de santé de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Le PASS, c'est le fait de soigner les personnes qui n'ont pas de protection sociale. La médecine, ce n'est pas une vocation. Vous dites être rentré dans la carrière par hasard. Mais ajoutez-vous, le hasard fait bien les choses. Vous avez débuté à l'étranger, Sénégal, Haute-Volta, désormais Burkina Faso, Indonésie, dans des programmes de recherche épidémiologique. De retour en France, vous avez cumulé une activité à SOS Médecins et dans les urgences hospitalières. Ce qui vous a plu dans la médecine, c'est dire bonjour aux gens. Le contact, la relation à l'autre. Le soin, c'est un prétexte, dites-vous. Le plus important, c'est écouter l'autre. Le soin en découle, là je vous cite. Et donc, cette non-vocation vous a tellement plu que vous n'arrêtez pas. Vous arrêtez d'autant moins que vous faites partie de la commission Chrisnart, qui a été créée il y a 6 ans par la Conférence des évêques de France et chargée de conseiller l'épiscopat dans l'évaluation des situations de prêtres ayant commis des actes pédocriminels. Une commission indépendante constituée de 4 magistrats et 4 médecins. Et là, quand vous êtes entré dans cette commission, vous étiez alors président du Centre catholique des médecins français, poste que vous avez abandonné pour laisser la place aux jeunes. Là aussi, ça s'est passé simplement. Alain Chrisnart, que vous connaissiez, vous a demandé « ça t'intéresse ?» Vous avez répondu « oui ». Et ce qui vous intéresse, c'est le problème de la prise en charge des difficultés de vie en Église, entre d'un côté un discours moral, religieux, spirituel, et de l'autre les abus. Assez logiquement, après le rapport de la SIAZ, vous avez été nommé pilote du groupe de travail de la SIAZ, un groupe de travail conjoint entre la COREF et la Conférence des évêques de France, qui traite de l'accompagnement des prêtres et religieux mis en cause. Mais cela, vous allez nous l'expliquer. Marie Ekman, vous êtes sœur de Saint-Joseph, vous avez prononcé vos premiers vœux en 2008. Vous avez travaillé 12 ans au ministère de l'écologie parce que vous deviez travailler 10 ans pour l'État, et puis comme les sœurs de Saint-Joseph continuent à travailler, vous avez travaillé dans l'aménagement du territoire et la promotion des actions pour le climat réalisées par les collectivités territoriales. Vous êtes étudiante donc au Centre SEV, comme je disais tout à l'heure, en 4e année, et vous vivez en communauté à Paris. Théophile Desarmeau, vous êtes jésuite, vous êtes entré en noviciat à la compagnie en 2017, vous avez été formé en anthropologie à l'université de Londres, mais vous avez travaillé plutôt pour les Allemands puisque vous avez travaillé comme assistant de recherche en primatologie sur les chimpanzés et les gorilles au Gabon, en Côte d'Ivoire, pour le compte de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig. Vous êtes en 4e année de formation au Centre Sèvres et vous êtes en communauté à Saint-Denis. Alors, Christine Danel, on vous écoute. Je vous prenez peut-être un autre micro, comme ça le virus va disparaître le temps que je le pose.
Église contrainte à la réforme. Il est difficile de parler de choses aussi importantes et subtiles en 10 minutes. Puisque c'est le temps qui m'est imparti. Je vais donc juste évoquer les appels que j'entends à travers les événements que nous traversons. Lors de Vatican II, les pères ont parlé de la rénovation de l'Église, une mise en œuvre concrète de la conversion toujours à vivre. C'est donc dans la nature même de l'Église de se réformer. Et ça tombe bien, nous en avons une bonne occasion. Si la crise est aussi forte, il me semble que c'est le cœur même qui est touché, c'est la confiance indispensable pour vivre ensemble. Donc oui, l'Église est contrainte à la réforme et c'est sa crédibilité qui est en jeu, sa mission même. Le premier point qui me marque, c'est l'importance du cri, de la colère, de l'indignation, une parole qui se dit et qui se fait entendre. Le cri des victimes, d'abord, enfin entendu et écouté, même si ce travail d'écoute est toujours à reprendre, tant il est parfois insoutenable d'entendre les conséquences des crimes, le dévoiement du sacré, les vies dévastées. Ce cri a pu être entendu, grâce aux associations, grâce au courage des personnes victimes, est relayée et amplifiée par les médias, qui ont joué un grand rôle. La mise en place de la SIAZ a permis d'écouter, d'analyser la situation, d'en comprendre les causes par un regard extérieur, et nous n'avons pas fini d'en prendre la mesure. Le livre de victimes à témoins devrait être lu, me semble-t-il, par tous les chrétiens pour prendre conscience des drames vécus et se laisser atteindre par cette souffrance, ne pas être sourd. Enfin, il y a aussi le cri et la colère des communautés chrétiennes. Une colère qui s'exprime, une lassitude et souvent un découragement. Le peuple de Dieu est scandalisé non seulement par les crimes commis, mais également par la banalisation du mal, la facilité à taire, à garder sous silence, à protéger souvent les auteurs. Ce que dit le pape François sur l'écoute du peuple de Dieu est un appel très fort pour les pasteurs. Non pas une écoute condescendante, mais une véritable écoute de l'esprit à l'œuvre, au cœur du peuple de Dieu qui crie et attend des signes concrets pour redonner sa confiance. Le deuxième point me semble être le sens des mots. Sortir du silence, appeler les choses par leur nom, retrouver le sens des mots, le sens du mal commis. Le sens des mots a été perverti pour cacher ce qui faisait notre honte. Quand on parle en Église d'affaires, de gestes inappropriés, de gestes contre la chasteté, il faut traduire crime, agression sexuelle, viol sur enfant ou sur personne rendue vulnérable. Les mots donnent de révéler une réalité, de la mettre au jour. Nous sommes souvent forts en Église pour utiliser un langage feutré, parfois même un double langage. Pourtant, Jésus ne mâchait pas ses mots, et la tradition de tous les prophètes de l'Ancien Testament ont en permanence dénoncé le mal, mis au jour les malversations, l'oppression des plus pauvres. On a longtemps confondu cacher et tenir sous silence des faits et être miséricordieux. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un vrai travail pour tenir ensemble, articuler justice et miséricorde, sans nier la justice. Exercer une justice, c'est-à-dire donner de justes sanctions, et que celle-ci soit connue et publiée pour rechercher d'autres victimes, surtout quand on a affaire à des prédateurs en série. Peut-on garder dans l'état clérical des personnes auteurs de crimes? Cette question me semble à différencier de celle du suivi des auteurs de crimes. Je ne suis pas sûre que nous ayons tous la même perception de la gravité des actes commis, et personnellement, je suis parfois étonnée de la faiblesse des sanctions ou de leur opacité, de la façon dont elles sont données, ce qui paraît être de l'extérieur une protection des clercs. Enfin, nommer les actes commis, c'est sortir de la confusion. C'est déjà faire œuvre de réparation et de justice. On le voit dans les expériences de réparation déjà vécues entre des instituts religieux, dont certains membres ont été des prédateurs, et des victimes dans le cadre de la commission reconnaissance et réparation, dont je salue ici le travail. Enfin, il me semble qu'il faut sortir de l'idéalisation et de la sacralisation. La manipulation du sacré et son dévoiement ont été possibles, car tous nous avons une propension à idéaliser des personnes, à sacraliser des êtres humains, à nous mettre sous une forme de dépendance de l'autre. Cette dépendance est parfois encouragée par une compréhension de l'obéissance comme soumission servile, ce qui est une parodie de l'obéissance véritable qui suscite des êtres libres. Cette tentation d'idolâtrie est dénoncée dans la Bible depuis les origines. J'aime cet épisode dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14, quand Paul et Barnabé se jettent sur la foule qui veut les mettre sur un piédestal alors qu'ils viennent d'accomplir un miracle au nom de Jésus. « Malheureux, Que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, comme vous. En ce sens, une réflexion sur le ministère sacerdotal, plus qu'une réflexion d'ailleurs, pourrait être utile. Ce sont bien des hommes qui sont ordonnés. Comment l'humanité, avec toutes ses composantes, y compris sexuelles, est-elle prise en compte dans la formation des prêtres? Quelle est la place des sciences humaines dans la formation? Si nous prenons au sérieux notre humanité, nous devrions accepter aussi de reconnaître que l'Église est d'abord une institution humaine et qu'elle répond donc à des lois humaines, avec ses logiques propres. Or, l'Église se pense parfois au-dessus des lois humaines. Mais qu'est-ce qui est sacré, si ce n'est cette relation de Dieu avec l'humanité? Parce qu'elle est au service de ce qu'il y a de plus sacré, la conscience, l'âme, la relation la plus intime avec Dieu, les mesures de prudence et de contrôle devraient être encore plus importantes. Pour prendre une comparaison dans le domaine de la santé, quand on s'occupe d'un virus dangereux, on prend beaucoup de précautions, on met un laboratoire P4 et des considérations extrêmement importantes. Que mettons-nous en place dans l'Église pour protéger ce qui est sacré, cette fameuse relation de Dieu avec l'humanité? Ceci amène à des propositions pour améliorer et rénover la gouvernance. Éviter les concentrations des pouvoirs sur une personne, l'évêque, comme le supérieur religieux, a autorité et en cas de problème, il est juge et partie. Il se doit d'accompagner ses prêtres et les juger. Et si c'est l'évêque lui-même qui est en cause, ses frères évêques n'ont aucun pouvoir sur lui. Il faut donc beaucoup de courage et l'on sait combien c'est difficile de dénoncer sa propre famille. Il est donc capital de sortir de l'entre-soi et d'assurer une justice indépendante, comme dans tout état de droit, ce qui est en train d'être fait, et on peut saluer cette réalisation avec le tribunal canonique national qui permettra d'externaliser les situations. Externaliser les procédures, mettre en place des structures de soutien et de conseil pour aider les évêques et les supérieurs à prendre des décisions qui conviennent. La vie religieuse pourrait sans doute apporter des éléments d'inspiration pour réguler le pouvoir et penser des contre-pouvoirs. Des mandats, des conseils, dont l'accord formel est nécessaire pour certaines décisions importantes, des chapitres auxquels on rend compte de son mandat. Évidemment, il ne s'agit pas de recopier la vie religieuse, mais juste de s'inspirer de certaines pratiques peut-être. Intégrer davantage encore les femmes dans la gouvernance de l'Église, à tout niveau, pour un équilibre et une ouverture. Non pas que les femmes soient forcément plus vertueuses, mais c'est un gage d'altérité, de regard et de sensibilité différentes. On pourrait utiliser des outils qui ont fait leur preuve dans les entreprises pour analyser les risques d'abus de l'Église à chaque niveau, favoriser la transparence des processus et la lisibilité des informations données au peuple de Dieu. Assurer la formation continue des pasteurs, notamment en ressources humaines, pour accompagner les prêtres et laïcs en mission ecclésiale par un management respectueux des personnes. Ces quelques pistes très rapidement brossées seront certainement creusées par les groupes post-SIAZ de la CEF et de la COREF, dont on espère qu'elles seront rendues publiques et qu'elles amèneront des changements dans les pratiques. En conclusion, il me semble que l'écoute des personnes et des communautés est essentielle, comme Jésus l'a fait pour Bartimée lorsque les disciples voulaient le faire taire. Faire confiance que l'Esprit est à l'œuvre dans l'Église, dans toutes les composantes du peuple de Dieu, voilà sans doute la clé pour avancer, pour retrouver le courage nécessaire et agir en conséquence. Sans doute des réformes de structure et de gouvernance sont-elles nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Il faut vivre, il faut les faire vivre par un esprit en étant vraiment à l'écoute les uns des autres, ce que le pape appelle de ses vœux par le processus synodal en cours. Enfin, je ne peux terminer mon propos sans mentionner Ignace de Loyola. Il a vécu à une époque où l'Église était bien en crise également. Il a constamment cherché à se réformer lui-même ainsi que sa propre maison quand on lui demandait le meilleur moyen pour réformer l'Église. C'est donc sans doute une tâche pour nous tous. Merci.
Merci beaucoup. Donc, réformer sa propre maison, Bertrand Galichon, fort de votre expérience dans cet accompagnement de prêtres religieux mis en cause, comment voyez-vous les choses?
Je vais poursuivre les propos de Christine. Ce qui m'a frappé quand je commence à m'intéresser au sujet, c'est son caractère universel. C'est-à-dire que ce problème des abus, qu'ils soient spirituels ou sexuels, tout ce que vous voudrez, sont absolument universels. Donc c'est une question qui touche en profondeur notre Église. Et notre Église apparaît, le moment où elle est la plus faible, c'est le moment où elle a le sentiment d'avoir tout maîtrisé. Et en fait, il faut qu'elle ne peut maîtriser que le temporel, et le spirituel continue son chemin. La mission de notre Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. D'accord ? Donc, elle doit être du monde sans en être, pour reprendre les termes de Paul Valady, bien connu dans cette maison. Et elle doit se laisser regarder par le monde. Elle doit se laisser juger par le monde. Et elle doit profiter du savoir du monde. Cette volonté de maîtrise de l'institution a favorisé le décalage entre un discours moral et les faits réels de la vie de tous les jours, les actes posés par des hommes, quelle que soit leur situation. Le silence fait le lit de l'abus, les mauvais mots, comme vous le disiez, fait le lit de l'abus. Le scandale ne doit pas toucher l'institution, donc on ne doit pas faire état. Donc il y a deux moteurs importants pour installer le silence et l'omerta. Il y a cette espèce de miséricorde mal compris, va et ne pêche plus, avec une bonne petite tape sur la joue, et on a vu comme ça des prédateurs qui sont allés de diocèse en diocèse et continuent à faire leurs œuvres. Le deuxième, c'est le cléricalisme, qui s'octroie un pouvoir justifié sur une parole d'évangile travestie. L'Église traverse aujourd'hui une perte de confiance, comme vous le disiez. Son discours ne peut plus être du monde, et pourtant il faut bien qu'il le soit pour qu'il ne puisse pas en être et qu'il puisse donner une parole différente. L'Église ne doit pas rester silencieuse. Elle doit parler des abus. Et parler des abus est la première mesure de prévention et de traitement de ces abus. Ces abus nous émondent. Ils émondent notre foi. Et c'est à ce niveau-là que se va jouer, à mon avis, la carte fondamentale pour notre Église. J'ai le sentiment que nous n'avons pas fini de travailler Vatican II. Nous devons aussi et surtout travailler ce mystère de l'incarnation qui fait Dieu homme et homme à l'image de Dieu. La communauté ecclésiale doit se vivre au croisement de cette verticalité et de cette horizontalité pour être du monde sans en être. Toute la communauté est concernée et même responsable, qu'on soit clair ou laïque. Il faut préparer, inventer une redistribution des rôles entre clair et laïque, et surtout entre hommes et femmes. Une petite provocation, les laïcs ne sont plus les chiens qui regardent les évêques passer. Il faut qu'il y ait un travail en commun qui puisse s'organiser. Et d'autre part, aujourd'hui, notre catéchisme d'enfant ne nous permet pas de justifier de notre espérance dans le monde qui est le nôtre. Et donc, il faut qu'il y ait une politique extrêmement proactive dans l'Église pour la formation de tous, et en particulier des laïcs, pour qu'ils puissent répondre à leur mission. En conclusion, et je pense que c'est là, les mois à venir sont extrêmement importants, on ne se justifie pas par le silence, et encore moins par le mensonge. Il nous faut débattre toujours et encore.
Merci beaucoup. Alors, je voulais donner la parole d'abord honneur aux femmes, mais en fait, on va donner honneur aux plus jeunes. Donc, Théophile, Bertrand parlait de l'Église doit se laisser regarder par le monde. Alors, c'est intéressant d'avoir votre réaction et vous voulez parler, axer votre prise de parole sur la parabole du pharisien et du publicain.
Tout à fait. Merci, Vincent. Bon, beaucoup de choses qui ont été dites. Le micro contre le menton. J'y viens à la parabole du pharisien et du publicain. Vous savez, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple. Le premier, il est à tout point de vue irréprochable et il rend grâce à Dieu. Il dit « Mon Dieu, merci, car je ne suis pas comme les autres hommes. Je suis ni rapace, je suis ni adultère, je suis ni injuste et je suis surtout pas comme ce publicain, donc merci mon Dieu. » Et l'autre homme n'ose même pas regarder le ciel et dit « Seigneur, sois favorable au pécheur que je suis. » Et Jésus dit « Lequel des deux est justifié ?» C'est le publicain qui est justifié. Cette parabole, elle me hante, elle m'habite et c'est en même temps un grand espoir pour moi parce que tout est là, tout est dans l'évangile. C'est écrit noir sur blanc, Jésus nous invite à faire ce travail sur nous-mêmes où on déplace notre représentation de nous-mêmes. On est invité à se reconnaître dans le publicain qui se sent intimement concerné par le mal. Pour moi, le drame que je perçois dans notre Église, c'est un drame d'image de soi-même. J'ai l'impression que l'Église, et là quand je parle de l'Église, je ne parle pas seulement, ni peut-être d'abord des prêtres, des évêques, mais nous, peuple de Dieu, est-ce qu'on se sent complice du mal? Est-ce que la réalité du péché qui est au cœur de l'Évangile, est-ce que ce signifiant qui a été beaucoup galvaudé, ce mot de péché, est-ce qu'on le réinvestit de la bonne manière? Est-ce qu'on n'a pas perdu le sens du péché, de son péché, et d'une forme de solidarité dans le mal qui conduit à la contrition véritable, à la pénitence? Dans un livre récent, mais qui commence à dater vu l'actualité, vu le rythme effréné de l'actualité de l'Église, c'était en 2019, Adrien Candiar a publié un commentaire de la lettre à Philémon. Dans les premières pages, il écrivait « Si l'Église a parfois si gravement failli à sa mission, si des clercs ont pu détruire des vies, ce n'est pas seulement le fait de quelques détraqués criminels dont j'ai le plus grand mal à me sentir d'une quelconque façon solidaire. » Et ensuite, il développe toutes les formes d'abus invisibles qui passe inaperçu, auquel lui-même à part, comme prêtre, il dit l'intrusion dans la conscience des gens, voilà, la pente très glissante vers la manipulation dans le cas des sacrements, il dit « Moi, j'ai ma part. » Voilà. En 2019, Candiar avouait sa très grande difficulté à se sentir solidaire de ce qu'il appelait quelques détraqués criminels. Pour moi, l'enjeu, il est là, c'est difficile, mais l'enjeu fondamental, c'est que ça ne concerne pas d'autres. Voilà. Ma crainte que je porte, c'est que voilà, on lise des horreurs dans le journal, on referme, et que dans notre prière, on se dise « Merci mon Dieu, car je ne suis pas comme ces prédateurs, je ne suis pas comme ces pédophiles. » Et tant que on n'aura pas réinvesti ça, il me semble, on ne sera pas à l'abri, l'Église ne sera pas un lieu sûr, tant qu'elle se mentira en fait sur elle-même, tant qu'on aura l'idée que l'Église est une institution respectable, faite de gens respectables, je pense qu'on aura du mal à se sentir concerné directement par le mal. Voilà. Et je pense que les prêtres ont un devoir énorme de nous montrer la voie. Je continue à croire que les prêtres ont un rôle à jouer du côté de l'exemplarité, mais c'est pas l'exemplarité du pharisien de la parabole, c'est l'exemplarité du publicain. C'est le prêtre qui a pour mission, par délégation de l'évêque, par délégation de l'Église, d'enseigner la miséricorde, de prêcher la miséricorde, sa seule manière d'être crédible, la seule voie possible pour lui, c'est de prêcher la miséricorde comme le publicain. C'est pour moi le ministère pétrinien. Voilà, c'est pas pour rien qu'on place le ministère sous le signe de Saint-Pierre. Saint-Pierre, de tous les apôtres, c'est peut-être celui qui a éprouvé le plus intimement le péché, le mal, la trahison, et qui annonce la bonne nouvelle, qui annonce la miséricorde à partir de cette fêlure qu'il a éprouvée intimement. Et donc des prêtres qui ne sont pas crédibles quand ils prêchent la miséricorde, ils nous font perdre notre temps, je pense. Et donc ça pose de grandes questions sur la circulation de la parole au sein des séminaires, au sein de la formation entre prêtres. Qui a soin de la vérité, qui a soin de détruire les idoles dans lesquelles les prêtres s'enferment eux-mêmes? Qui a soin de jouer le rôle ingrat du prophète Nathan qui va voir David, qui lui dit « Cet homme, c'est toi. Bernard Prénat, c'est toi. » Au sens où, voilà, si c'est pas moi qui ai péché, c'est mon frère. C'est se sentir très concerné, se sentir intimement concerné par le péché qui, pour moi, le Christ nous montre la solidarité dans le mal. Il se fait crucifier aux côtés des bandits. Il dit, si c'est pas moi qui ai commis le mal, c'est mon frère. Je me fais crucifier avec le coupable. Je me fais crucifier avec les victimes, mais je me fais crucifier avec les coupables, avec ceux qui méritent la mort. Donc, par rapport au rôle du prêtre, je l'ai déjà dit, moi, je suis... Je vois pas de problème avec... Bon, on a beaucoup parlé des écueils d'une spiritualité du prêtre comme autre Christ. Mais voilà, sans s'éloigner de cette idée du prêtre comme alter Christus, voilà, le Christ, c'est aussi l'ecce homo, c'est l'homme qui est livré en pâture à la foule, au jugement de la foule, au lynchage, et c'est l'homme qui est révélé dans toute la fragilité de sa chair, la misère de sa condition. Je pense que ça rejoint des choses que vous avez développées. Et voilà, encore une fois, le Christ reconnu à son aspect pour un homme, pour moi, cette phrase « reconnu à son aspect pour un homme », elle devrait être inscrite sur les frontons de tous les séminaires du monde. C'est « est-ce que nos prêtres ressemblent à des hommes ?» C'est des choses que vous avez développées. Ça devrait être la préoccupation de chaque instant de nos formateurs. Et enfin, sur ce que vous avez développé, Bertrand Galichon, sur se laisser enseigner par le monde, notamment la place des sciences sociales dans notre formation. Voilà, le désir, c'est quelque chose d'extrêmement trouble, d'extrêmement ambigu. Je trouve que, pour le coup, le monde, notre société, ne nous aide pas beaucoup à penser le désir comme violence, à penser la prédation qui est dans le désir. Voilà. Comment apprivoiser? Et ça participe de ce que je disais au début, le prédateur, c'est pas juste... Il y a bien sûr une différence capitale entre celui qui passe à l'acte. Et donc, il y a de bien sentir ce qui nous distingue, évidemment, et la justice est là pour ça. La justice fait la part des choses entre le criminel et l'innocent, mais dans l'animal que les animaux que nous sommes, voilà, je suis aussi effrayé par la tentation de faire l'ange, évidemment, qui fait l'ange fait la bête, de réinvestir le fait que nous sommes des bêtes, nous sommes même avec des instincts de prédation. Bon, je reviens pas sur les chimpanzés, mais c'est vrai que moi je me suis senti intimement proche, je me suis reconnu, et c'est très très troublant de se reconnaître dans la violence qui s'exprime dans les relations ordinaires entre bêtes. Mais nous sommes des bêtes douées de conscience et appelées à la lumière. Et je pense que dans notre anthropologie, voilà, elle manque d'incarnation. Donc, pour faire écho à vos partages. Merci beaucoup.
Marie, Théophile parlait de « nous sommes des bêtes douées de conscience appelées à la lumière ». Votre réaction à ce qui s'est dit jusqu'à présent ?
Moi, j'aurais envie de vous poser trois questions. La première question, elle va un peu dans la suite de ce que vous disiez autour de obéissance et soumission tout à l'heure, en vous demandant de votre point de vue chacun, comment éviter que la vie de l'Église ne favorise le passage à l'acte, et en particulier si la vie chrétienne c'est imiter le Christ et un homme qui s'en est remis totalement à un autre en risquant de tout ce que la conscience n'interdit pas et que ça l'a conduit à la crucifixion et que ce que Philippe Lefebvre a qualifié d'abus dans son livre « Comment tuer Jésus ?» voir le Christ dans le plus vulnérable, ça nous conduit à porter une attention particulière à celui qui est vulnérable, l'enfant, mais aussi les adultes vulnérables. Mais ça peut aussi nous inciter à choisir de nous rendre nous-mêmes vulnérables comme le Christ, par la remise de soi au plus intime, à Dieu, par le biais de médiation humaine, par exemple dans le cadre de la confession, d'accompagnement spirituel, ou bien de l'obéissance dans la vie religieuse. C'est autant de situations qui vont mettre en fait des personnes en situation d'autorité et de possibilité de commettre des abus. Et on a vu que peut-être qu'il y a des choses dans nos manières de procéder qui vont favoriser le passage à l'acte en donnant prise à ceux qui s'en sur ceux qui s'en remettent à ceux qui voilà. Et donc vous l'avez dit tout à l'heure, il y a urgence de continuer à réfléchir à des garde-fous avec la conscience que les meilleurs garde-fous n'empêchent jamais le passage à l'acte. Et ma question, c'est quelle piste pour penser ces garde-fous de manière à ce qu'ils ne stérilisent pas le mouvement de remise de soi qui est à l'origine de ces situations et qui est au fondement de la vie chrétienne. J'avais une deuxième question sur la question de la culture du secret et de l'entre-soi. Vous en avez beaucoup parlé. Pour ma part, j'avais été très frappée en 2017 par... le livre de Marie-Laure Janssens, Le silence de la Vierge, qui s'ouvre par la citation des propos que lui a tenus Monseigneur Brincard en disant « Le silence de l'Église est à sa manière un acte de miséricorde à l'égard des personnes. Ce n'est pas avoir peur de la vérité que de garder le silence lorsque celui-ci est le langage du don de soi, le langage du service, comme la Vierge Marie vous le fait comprendre. » J'avais été un peu effarée en lisant ça. Et j'avais eu l'impression que ce type de position était d'un autre temps, même si c'est pas si loin de ça que nous. Aujourd'hui, il semble que si les raisons théologiques invoquées par Mgr Brincard ne sont plus utilisées, l'attitude de fond reste de mise. Et bon, on peut se poser la question, peut-être pourquoi est-ce que Rome n'assume pas davantage les décisions qui sont prises suite à des problèmes de gouvernance, de moralité ou autre. On demande à un évêque de démissionner plutôt que d'assumer qu'il soit démis de sa charge. Mais peut-être au-delà de ça, ma question, elle est pour vous, Bertrand Galichon. Est-ce que rendre la décision publique, au-delà de permettre aux victimes de se prononcer, au peuple de Dieu, de ne pas être dans des situations délicates, ça ne peut pas aussi aider les abuseurs à sortir du déni en permettant que ce soit la communauté tout entière qui l'aide à faire la lumière sur ses actes. Et puis, ma troisième question, pour tous les deux, elle est suite à une tribune qui a été publiée dans La Croix par Massimo Faglioni et Hans Söllner, où il disait que, en fait, si le processus synodal lancé par le pape, passer à côté de la question des abus, il allait passer à côté de son objectif. Et quelque part, quel nouveau modèle trouver aujourd'hui pour notre Église qui s'appuie sur les charismes sans ouvrir la porte aux dérives? En fait, un certain nombre de situations qu'on trouve aujourd'hui sont peut-être liées au fait que dans les dernières années, on a laissé beaucoup de place au charisme propre et au don de l'esprit dans la modernisation de l'Église, mais peut-être sans un discernement suffisant. Et la synodalité, elle nous encourage à continuer dans cette voie en fondant la légitimité davantage sur les compétences que sur l'ordination, en laissant davantage de place à la créativité de l'esprit. mais Jean-Marie Guénois faisait dans le constat, dans une lettre publiée ce samedi, d'une suradministration de l'Église qui pouvait conduire à une déresponsabilisation, peut-être à la fois des clercs et des laïcs, et qui peut nous poser la question du modèle dans lequel nous sommes. Je relisais récemment un texte d'Ivan Illich qui faisait ce constat en comparant l'institution Église à General Motors. L'effort pour rendre l'Église plus moderne et efficiente est contrecarré par une détérioration de la discipline. Plus l'Église devient une entreprise organisée et moderne, plus elle semble abandonnée par son personnel à plein temps. Alors comment penser l'évolution des structures de l'Église aujourd'hui, hors d'un raidissement institutionnel mortifère et hors du modèle entrepreneurial qui est souvent utilisé? Et ma dernière question, toujours autour de cette question de gouvernance et de synodalité, elle est autour de la difficulté à gérer les ressources humaines, pour employer des mots horribles, que ce soit pour les laïcs ou les prêtres au sein de l'Église, parce que la bienveillance évangélique a parfois une double face, qui est celle de l'absence de vérité ou du manque de franchise. Aux États-Unis, il y a un institut qui a été créé pour aider les évêques dans la gouvernance. Et cette place, elle est prise aujourd'hui en France par des cabinets de consultants qui ont souvent une affinité avec l'Église, mais peut-être pas, parfois pas toutes les compétences en droit canon, en théologie, pour pouvoir mener une réflexion sur la gouvernance. Alors, quelle structure, en particulier en France, pour aider l'Église sur les questions de gouvernance? Et n'aurions-nous pas profit à nous inspirer des modèles d'autres confessions chrétiennes sur ces sujets?
Il y a de quoi faire. Alors, par quoi on commence? Vous voulez répondre?
Je me lance. La première question, c'est l'obéissance. Je trouve que c'est une question extrêmement compliquée et j'y répondrai par les choses suivantes. Je pense qu'on oublie trop souvent la synonymie qu'il y a entre liberté et responsabilité. Et je pense que ma liberté commence avec la tienne et ma responsabilité commence avec la tienne. Et je crois que quand on a ça à l'esprit, ça permet de faire, ça évite de faire un certain nombre de faux pas, même en tant que médecin, c'est une réalité, n'est-ce pas? Vous parliez, deuxième question, le silence et la publicité faite autour des actes, des abus qu'il peut y avoir. C'est une question extrêmement difficile. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre silence et discrétion. Et je pense qu'il faut savoir parler des événements qui se sont déroulés devant un public qui est éminemment concerné par la question. Je ne pense pas que la place publique et son pilori médiatique soient le bon endroit pour parler de tout ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait une publicité qui puisse être faite, une publicité bien entendu bien comprise. Le nouveau modèle et la suradministration, j'avais évoqué en demi-teinte dans mon introduction. Je trouve que c'est une dérive qui peut y avoir. Je pense que c'est un autre modèle d'église qu'il faut inventer que celui d'une une suradministration avec un tas de cabinets de consultants que vous évoquiez. Je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine liberté, donc responsabilité, donnée à chacun. Quant à le déficit de compétences, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la nécessité absolue de se former. Il y a bien des personnes qui sont promues à telle ou telle place parce qu'ils sont catholiquement corrects. Voilà. Mais pas obligatoirement professionnellement correct. Et donc, je pense que ça rejoint votre préoccupation sur la nécessité de former les ressources humaines, vilain mot, mais il faut vraiment l'introduire dans l'Église. Et quand on s'occupe de l'accompagnement de ces prêtres qui sont mis en cause, la notion des ressources humaines arrive tout de suite, savoir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer, quelle place dans la société vont-ils pouvoir trouver dans l'Église ou en dehors de l'Église, c'est une autre question. Mais là, voilà, cette question de l'accompagnement complet de l'homme dans sa dimension affective, spirituelle, mais aussi sociale, avec les ressources humaines, c'est extrêmement important. Voilà.
Christine ?
Merci pour la pertinence des questions à tous les deux. Obéissance et soumission et remise de soi. Je trouve que c'est un immense défi pour nous en Église parce qu'effectivement, sous couvert d'obéissance, on a justifié des choses absolument monstrueuses. Donc il y a une perversion de l'obéissance qui a été vraiment manipulée. C'est-à-dire que l'obéissance et l'autorité, elle est faite pour faire grandir l'autre. Or, dans les abus spirituels, c'est justement soumettre l'autre, d'abord par sa conscience, et puis progressivement par les abus sexuels, mais c'est mettre justement l'autre sous domination. Donc c'est le contraire de le faire grandir. Donc quand je dis c'est une perversion de l'obéissance, c'est vraiment ça. La difficulté, c'est que et c'est ça que j'essayais de souligner, c'est-à-dire... Parfois, humainement, on a besoin de se mettre sous la dépendance de quelqu'un. On en fait tous l'expérience. Donc, il y a en même temps des personnes qui ont la capacité de vouloir dominer sur les autres. Et puis, il y en a certains qui ont la propension à se mettre sous la coupe d'autres. Donc, le couple des deux est absolument infernal et produit les abus qu'on a vus dans nombre de communautés ou dans nombre de situations. Donc, soit la personne qui est dépendante et qui se met sous la coupe d'un autre, c'est parce qu'elle est un enfant et donc elle n'a pas la possibilité d'avoir son autonomie. Soit c'est parce qu'elle est rendue vulnérable pour diverses raisons. On peut tous être rendus vulnérables, c'est ça qui est compliqué. C'est que il y a des personnes qui peuvent, parce qu'elles passent un moment difficile ou parce qu'elles sont dans une situation de formation, des novices ou des séminaristes, où là on est en formation et donc on a une forme de, pas de régression, mais on fait confiance justement à d'autres et on demande de faire confiance. Donc on est particulièrement vulnérable dans ces situations-là. Donc la question, elle est comment avoir une vraie conception de l'obéissance, qui est comment rendre l'autre auteur de sa vie, auteur de ses décisions, et libre. La véritable obéissance, elle rend libre. Elle n'est pas une soumission de l'un à l'autre. Mais de fait, ça a été complètement perverti, et c'est encore perverti dans beaucoup de lieux. Après, il faut le mettre en musique, l'obéissance religieuse, comment on la fait, comment on la pratique. Donc il y a des groupes de réflexion qui sont à la COREF sur justement comment on parle des vœux, comment est-ce qu'on forme à la vie religieuse pour que ce soit une manière humaine de comprendre les vœux, dans le sens comment ça fait grandir l'humanité en nous. Et ça reste, je rebondis sur ce que tu disais Théophile, sur l'humanité. Je pense que c'est le critère, on doit grandir en humanité, en bonté, en tout ce qui fait la beauté de l'humanité, et non pas l'idéaliser, la mettre sur un piédestal ou sur quelque chose qui est contraire à notre être humain, quoi. Y compris, justement, la sexualité, tout le trouble, le désir et toutes ces choses qui nous débordent parfois, mais qu'il faut avoir le courage de regarder en face pour l'assumer. Et on est tous faits de chair et de désir. Il y a une grande différence entre assumer ses propres désirs, enfin pas les assumer, les reconnaître tout simplement. Et c'est beau, c'est ça qui fait la vie aussi, comme une puissance de vie. Et puis passer à l'acte dans des comportements qui sont répréhensibles. Ça, c'est deux choses différentes. Et donc même s'il y a quelque chose de semblable dans l'origine, après il y a comment ça, on déborde et qu'on traverse des limites Et donc là, il faut bien faire la part des choses, parce que il peut y avoir une tendance à dire, bah là, on est tous responsables, et puis finalement, on est tous pécheurs. Oui, bien sûr, on est tous pécheurs. Mais il faut quand même faire la part entre quelqu'un qui est, je veux dire, pécheur standard, entre guillemets, et puis quelqu'un qui fait des crimes. C'est quand même pas pareil. Là aussi, il faut dire les choses clairement, même si la source initiale, elle est peut-être la même, mais quand même, il y a des différences. On ne peut pas dire que tout est pareil. Pour la deuxième question, la culture du secret. Ben oui. Ben, je dirais que c'est un peu du même ordre. Hein. Voilà. Sois belle et tais-toi. Ne dis rien. Voilà. C'est la manière de faire des prédateurs. C'est surtout ne dis rien. Donc, comment est-ce qu'on... Alors, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mettre en pâture dans les médias, etc., il y a quand même des niveaux entre discrétion et puis nommer les choses. Et voilà. Comment oser une parole dans le bon lieu, dans les bonnes personnes, auprès des bonnes personnes qui sont susceptibles de changer les choses. Ce qui a été difficile, là, ces dernières années, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup de victimes qui ont essayé, de personnes victimes qui ont essayé de parler et qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas entendu. Et donc, elles ont été obligées, d'une certaine manière, de faire appel aux médias. Quand on entend l'histoire de la parole libérée, c'est quand même impressionnant. Les gens, ils ont essayé de parler. Ils ont été voir les cardinaux, les prêtres, les évêques. Personne ne les a écoutés. Donc, au bout d'un moment, ben, on dit, ben, écoutez, excusez-moi, moi, je vais aller voir les médias, quoi. Donc, c'est aussi, je pense qu'on a été... Il y a des personnes qui ont été poussées à parler dans les médias parce qu'on n'a pas su entendre le cri des personnes victimes. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse établir des lieux de parole, de véritable confiance, où les gens puissent être entendus, pris en compte et que leur souffrance soit écoutée et que justice soit faite, tout simplement. Et là, je pense que du coup, ça se régulera et qu'on n'aura pas besoin d'aller dans les médias.
Je ne veux pas défendre les médias, mais à la fois, il y a des personnes qui ont pris conscience qu'elles avaient été victimes d'abus parce que, précisément, on a nommé les agresseurs. Et donc, c'est dans les médias qu'elles ont pris conscience. Et un processus d'occultation, dans les conférences d'ailleurs, la conférence qui a eu lieu ici avec la spécialiste qui venait, je crois qu'elle est de la Cato, la psychologue qui expliquait ce processus d'occultation et effectivement que les gens prennent conscience qu'ils avaient un mal-être en eux, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, et effectivement ils ont compris 20 ans après qu'ils avaient été victimes d'abus. Donc effectivement, c'est la question qui se pose à nous, les médias, c'est que dire, jusqu'où donner des noms, c'est très compliqué.
C'est effectivement très compliqué. Et on voit d'ailleurs qu'à chaque affaire, il y a un pic de personnes victimes qui arrivent à la CRR ou à l'INIR. Et forcément, ça ravive des choses et que du coup, les personnes accèdent à la parole plus facilement ou y reviennent, quoi. Alors, concernant le charisme propre, les compétences, enfin, j'ai trouvé... votre question extrêmement intéressante sur le processus synodal et comment l'articulation finalement du processus synodal, des charismes propres, des compétences, comment l'articuler avec un discernement ecclésial et cette question sur la suradministration de l'Église. Je pense qu'on peut peut-être trouver une juste mesure, c'est-à-dire l'Église, elle est quand même... C'est nous tous l'Église, donc comment est-ce que chacun trouve sa place, donne le meilleur de lui-même, peut servir, peut mettre au service ses compétences. Or, parfois, il y a un peu une souffrance qu'on entend de ce côté-là, qui est que, dans la vie paroissiale, peut-être, pourrait être caricaturale, mais que c'est pas toujours entendu et qu'il y a une articulation là entre... le pouvoir de décision et puis la mise en œuvre des charismes. Il y a certains qui prennent le pouvoir par leur charisme propre. Donc, faut aussi pouvoir dire, excuse-moi, mais là, ça suffit maintenant. Donc, et ça, je crois que si c'est dit et si on met des règles où on donne des mandats, encore une fois, excusez-moi, je vais revenir à ces choses-là, mais quand on clarifie la gouvernance, ça aide chacun à vivre et à donner le meilleur de soi. Ce qui est difficile parfois, c'est que les choses sont pas claires et c'est que c'est parce que on essaye d'être gentil ou alors telle personne et on prend les personnes un peu par l'affectif et on n'arrive pas à donner des choses claires sur des... Alors il s'agit pas de faire une suradministration parce que on n'est pas là pour on n'est pas des embauchés et des salariés de l'Église. Hein. Donc voilà. Je crois qu'il y a des choses à chercher pour en même temps arriver à profiter de la compétence de tous les systèmes d'entreprise, et en particulier sur la question des abus. Il me semble qu'on a beaucoup travaillé ça sur l'analyse des risques ou la cartographie des risques. Il y a quand même des outils qui sont mis en œuvre dans les entreprises pour diminuer le risque. Et même, encore une fois, on n'arrivera jamais au risque zéro. Mais par contre, on est tenu de prendre des moyens pour diminuer les risques et pour rendre la maison-église sûre, que les gens puissent envoyer leurs enfants au catéchisme sans avoir la crainte de se dire est-ce qu'il va être abusé, ce qui est quand même le minimum qu'on puisse assurer. Et la difficulté à gérer les RH, voilà, ça, peut-être que ça rejoint un peu, c'est-à-dire la bienveillance, le manque de vérité ou de franchise. Encore une fois, je pense que si on clarifiait davantage nos manières de procéder et de vivre la gouvernance, ce serait peut-être plus facile. Enfin, il me semble.
Est-ce que vous voulez réagir à la réaction ? Et puis ensuite, on passera la parole à la salle. On a encore une demi-heure.
Moi, je peux peut-être dire un mot en réaction, Christine, à ce que vous avez dit. Moi, j'ai plutôt développé la solidarité dans le mal, et vous avez dit, mais attention, c'est quand même très, très différent, et pour cause, c'est très différent de se reconnaître, enfin, de se reconnaître pécheur, enfin, le passage à l'acte, le crime, la différence est radicale, et qu'il ne faut pas tout confondre. Peut-être mes propos ont prêté à confusion, parce que dire ma conviction, c'est qu'on ne peut pas dire on est tous pécheurs à la légère, que c'est pas que c'est juste que justement moi je sens que le problème est de ce côté-là, dans le sens où on banalise la chose et on perd de vue que enfin mettre à mort un innocent, le lynchage du Christ, c'est en ça qu'on est concerné. Et quand je disais assumer son humanité, c'était peut-être le mot qui est plus juste encore, c'est l'apprivoiser. Et pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je crois très très fort que ce que ça veut dire, c'est quand on est dans l'ignorance de ce dont on est capable, quand on est dans le déni en fait de la faiblesse de l'homme, c'est ça qui conduit aux horreurs. Le Dieu à Caïn qui lui dit prends garde à la bête qui est tapie à ta porte, qui est tapie dans l'ombre, car c'est là qu'elle viendra te dominer. Mais exposer cette bête et faire la lumière, l'amener à la lumière, moi ma conviction c'est que ça peut vraiment désamorcer. Mais alors c'est là où il faudrait que Bertrand Galichon nous dise si c'est réaliste. Enfin, est-ce que les hommes convaincus de crimes, est-ce qu'ils parviennent à lever le déni sur leur situation? Voilà.
Alors, c'est une vaste question. Le problème du déni, c'est il touche aussi bien la victime que l'auteur, n'est-ce pas? Je me reconnais victime à cause d'un article, grâce à un article de presse ou un témoignage. La même chose pour l'auteur. Mais si vous voulez, on rencontre deux grands cas de figure, en fait, si on veut être simple et pas trop simpliste. Il y a l'homme qui s'est pris les pieds dans le tapis, et puis il y a Prena. Et là, on est sur deux dimensions complètement différentes, n'est-ce pas? Vous avez les frères Thomas d'un côté, et puis vous avez l'homme seul, parce que la solitude du prêtre est un facteur majeur de sa chute, n'est-ce pas ? Soit pour des problèmes d'abus, soit pour des problèmes d'alcoolisme, mais la solitude est absolument majeure, d'accord ? Et donc je pense qu'il faut bien distinguer les deux situations, d'accord ? Et tout le traitement qui va être proposé, tout l'accompagnement qui va être proposé à ce prêtre, c'est justement de pouvoir faire la part des choses. Et là, c'est extrêmement compliqué.
Ma question, elle est un peu dans le prolongement. Je me permets de revenir encore sur la question du silence. J'entends et je consonne à ce que vous dites que la publicité des actes ne doit pas mener à un pugilat. Mais est-ce que on peut dire que les communautés chrétiennes ont aussi une responsabilité vis-à-vis des auteurs d'abus, une responsabilité d'accompagnement qui serait une manière d'éviter de les mettre au banc de la communauté en disant qu'on ne veut pas les voir parce qu'ils n'ont plus leur place, mais qui serait de leur faire une place en nommant les choses, du coup, ce qui permet d'éviter toutes les ambiguïtés et de les accompagner dans quelque chose qui pourrait être un chemin de vérité, mais fraternel. Du coup, on n'est plus dans l'exclusion, mais au contraire dans une intégration qui fait droit à la réalité des faits.
Alors, vous soulevez une question qui est extrêmement importante, et dans notre groupe, donc accompagnement des clercs et prêtres mis en cause, c'est une question assez essentielle, n'est-ce pas ? Et donc, de la responsabilité de la communauté dans son ensemble est quelque chose d'absolument premier et qu'il faut prendre. Et donc là, je rejoins le publicain et le pharisien. C'est absolument essentiel. Et je crois qu'il y a un très gros travail en Église, il y a un gros travail théologique à faire sur cette question-là. Et c'est là où je trouve que cette question des abus est extrêmement intéressante, c'est qu'elle nous émonde jusqu'au plus profond de notre être, de notre foi. N'est-ce pas ? La responsabilité, on l'entend dire, oui, mais tu comprends, le père machin a été pédophile, c'est pas mon histoire. Eh ben, écoute, mon chéri, peut-être que un petit peu, hein, ton silence, le fait que tu aies détourné le regard, ça y participe aussi. Ton cléricalisme à tout craint, ta volonté de tout sacraliser, y participe aussi. Donc effectivement, je crois profondément que dans ces problèmes d'abus, il y a une co-responsabilité de tous. Et la réparation doit être formulée par tous.
Je propose qu'on passe la parole à la salle. Il y a une question tout là-bas au fond. Et il y a un micro qui va bientôt arriver. Vas-y.
Passer la crise que l'Église connaît. Surmonter cette crise profonde que vit l'Église.
Merci, mais je crois qu'on est en plein dedans, n'est-ce pas ? Vatican II doit être travaillé à la lumière des événements que nous traversons à l'heure actuelle. D'accord ? Quand je dis que l'Église doit être regardé, se laisser regarder par le monde, c'est bien dans l'esprit de Vatican II que ça doit être fait, n'est-ce pas ? Et si l'Église veut être du monde, il faut qu'elle passe par là, d'accord ? Et si elle veut ne pas être du monde, de pouvoir proposer une parole différente, une parole signifiante, eh ben, elle est obligée de passer par là. Et je crois qu'on est en plein dedans, voilà.
d'autres questions?
Oui, ça marche, hein, oui. Vous avez parlé de co-responsabilité, donc on est co-solidaire de ce qui s'est passé. Moi, je voudrais simplement dire que pour accompagner des gens en communauté et ou sortants, nous avons un gros problème avec le droit canonique. Le droit canonique, c'est une forêt vierge où chacun se retire, se cache derrière. Et vous avez le canon machin qui n'est pas du tout pour la communauté truc, qui n'est pas d'accord avec. Donc la co-responsabilité, c'est vrai, je l'entends. Mais pour se sortir de certaines ornières, c'est pas évident. Pas pour se sortir, pour les sortir, les accompagner quand ils sont pris dans des ornières. Alors peut-être que l'Église aussi peut se pencher sur ce gros chantier.
Qui veut répondre à ça?
Je répondrai à votre question simplement pour vous parler de le droit canonique, une forêt vierge. Bon, je crois que c'est un grand désert. Voilà, depuis Vatican II, on a mis le droit canonique sous le boisseau. Il n'y a plus que Rome, Vatican qui s'en servent. Et puis, c'est tout, c'est terminé. Donc, donc, on rejoint là cette question du mal nommé. D'accord? La justice essaie de bien nommer les faits, les spécifie, et vu que le droit canonique est mis de côté, eh ben, les choses ne sont plus nommées. N'est-ce pas? Et donc, ce tribunal national canonique, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, vient d'être créé, là, lundi. Quelle va être sa portée devant le vide canonique de l'Église de France à l'heure actuelle? Je ne sais pas du tout. Hein. Je ne fais pas de procès d'intention, hein. Je pose simplement la question.
Christine, dans votre prise de parole, vous avez salué la création de ce tribunal?
Je l'ai salué comme un progrès, parce que de toute façon, un évêque tout seul à devoir gérer des prêtres qui sont criminels, mais c'est impossible comme situation. Ils ne peuvent pas. Humainement, c'est totalement impossible. C'est comme si on demandait à un père de famille de mettre en prison son propre fils. Donc, en ce sens, je pense que le tribunal national...
Une forme de séparation des pouvoirs, quoi.
...permet d'abord d'externaliser, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, les cas seront au moins jugés par des personnes qui ne sont pas directement en lien avec les prédateurs ni avec les évêques. Donc, en ce sens, on peut espérer quand même qu'il y ait un petit peu plus d'indépendance et un petit peu plus de liberté dans le jugement. Après, le droit canon et la clarté des jugements, je reste assez dubitative aussi. Mais bon, ça, j'espère qu'il y a des gens qui réfléchissent.
Ici, puis ensuite là-bas. Ou d'abord, on va commencer par ici, comme ça sera plus simple. Madame? Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas vu que vous aviez un micro. Ah bah pardon. Allez-y.
Il marche, oui, vous m'entendez? J'ai juste écrit deux, trois lignes. En octobre 2012, il y a eu les rencontres du Centre Sèvres, hein, 50 ans après Vatican II, dont on a parlé tout à l'heure, et qui ont voulu envisager l'avenir de l'Église dans le monde. Et la première intervention, je vous rappelle, ça a été celle du père Christophe Théobald, qui a décrit Vatican II comme le commencement d'un commencement. C'est une parole de Karl Rahner. Il a insisté sur quelque chose de très important, qui me paraît très important, qui est la mission triangulaire du Concile, avec les trois sommets du triangle qui sont Évangile, Société et Église. Et alors, ces trois sommets sont le signe d'une véritable conversion dans leur articulation mutuelle. Voilà le point. Alors, quand il aborde maintenant le chapitre des questions particulières, qui est un petit peu ce que nous traitons aujourd'hui, Christophe Théobald est vraiment un lanceur d'alerte. Il dit, comprend-on que l'occultation de cette vision projective dont je viens de parler, du Concile Vatican II, ou au moins un rétrécissement au traitement des questions particulières, dont par exemple, conduit vers des impasses. Alors, il ne précise pas vraiment les impasses, mais peut-être que là, aujourd'hui, nous sommes à une des impasses prédites par Christophe Théobald il y a 10 ans ici. Alors, dans les échos jésuites de l'automne 2022, le père Thierry Lambollet, c'est, vous savez, ce fascicule qui est là à l'entrée. Il rappelle qu'Ignace, blessé à la jambe en 1521 pendant la bataille de Pampelune, entame une conversion, et puis voilà, il prend la route de Manres. Eh bien, finalement, l'explosion de la communication des abus a conduit Véronique Margron, pour ne prendre que cet exemple, dans son livre « Un moment de vérité », a proposé justement une liste de 12 chantiers majeurs capables de changer le style de l'Église. Alors, je pose deux questions, mais elles ont presque été un peu abordées. Premièrement, peut-on envisager, je ne pense pas du tout, je ne crois pas tellement au modèle synodal. Le modèle synodal, il rejoint l'évêque, donc il va être coincé en haut. Donc, je dis, peut-on envisager sur le modèle de ce qui se fait en écologie, un forum international de l'Église, ou bien des chrétiens, je ne sais pas, avec égalité homme-femme, égalité clerc-laïque, égalité jeune-moins jeune, axé sur l'éthique. Avec tous les problèmes de l'éthique, ils sont très nombreux, il n'y a pas que celui-ci. Et deuxième question, un concile, point d'interrogation. Voilà.
Forum international avec égalité et un concile. Vous pouvez réagir vous aussi. Hein.
Moi, j'étais très intéressée par votre intervention parce que vous avez posé la question de la place des jeunes. Et voilà, en pensant à cette conférence, je prenais conscience que peut-être que c'est un vrai manque pour l'Église que les jeunes étaient aussi peu présents au débat sur la préparation du synode, sur la synodalité, en particulier sur ces questions-là. Parce que je prenais conscience que j'arrive à un âge où je suis déjà un peu formatée par cette culture, ces structures, ces habitudes de silence, et qu'on a besoin de leur fraîcheur peut-être et de leur créativité pour faire du neuf. Et je ne sais pas, est-ce que dans vos travaux, vous avez eu l'occasion de réfléchir à cette question ? Comment penser à un nouveau modèle d'église qui inclut les jeunes sur ces questions ?
Dans les travaux de la Coref post-Siaz, pas tellement, mais par contre dans Promesses d'Église, qui est aussi une création après la lettre du pape au peuple de Dieu pour lutter contre le cléricalisme, la question des jeunes est vraiment très présente, c'est-à-dire comment les jeunes, les plus pauvres, les femmes, enfin voilà, des populations qui n'ont, enfin comment dire, voilà, dont on sent qu'il pourrait y avoir du renouveau ou en tout cas une réflexion différente ou un abord un peu autre, décalé, qui pourrait donner des pistes pour réfléchir. En tout cas, ça, c'était un lieu très où les jeunes étaient vraiment très présents quoi, dans les soucis.
Il y a 9 groupes qui ont été constitués pour faire des propositions pour ces problèmes d'abus. Et il y en a un 10e qui est arrivé, qui est arrivé et qui est en fait un contrepoint des 9 autres et qui est un groupe de jeunes, d'accord, et qui travaillent sur l'ensemble des sujets, mais à partir de leur point de vue et de leur expérience. Je trouve ça extrêmement intéressant.
Je ne savais pas non plus. Là, il y a deux. On va profiter que le micro soit de ce côté-là, devant d'abord. Absolument.
Je trouve qu'il y a dans cette affaire, il y a un relatif contraste entre le...
Bien proche du micro.
Pardon. Je trouve que dans cette affaire, il y a un relatif contraste entre le fait qu'on entend parler des victimes, ce qui est tout à fait légitime, et on peut saluer le travail des associations. Par contre, je me demande s'il n'y a pas une sorte de danger dans le fait qu'on entend qu'on ait aussi peu d'informations sur ce que deviennent la cohorte, visiblement assez nombreuse, des abuseurs. Qui se préoccupe d'eux? Où sont-ils? Quel âge ont-ils? Que fait-on d'eux dans une perspective qui ne peut pas être seulement une perspective de punition, même s'ils méritent la punition, puisqu'ils sont criminels, vous l'avez très bien dit. Donc, est-ce qu'il y a une approche, et est-ce qu'on ne peut pas être inquiet que ces personnes ne soient traitées que comme des cas isolés ou individuels?
Alors c'est tout le travail du groupe que j'ai l'honneur de piloter, Donc l'accompagnement des prêtres est mis en cause. Et c'est les questions que nous nous posons régulièrement. Et quelle place, quel accompagnement et quelle place donner à ces hommes qui ne sont pas obligatoirement des renégats. Enfin, je veux dire qu'il faut... Et ils ont une histoire, ils ont une solitude, ils ont... voilà. Et de façon plus prosaïque, plus directe, l'Église a une responsabilité vis-à-vis d'eux, n'est-ce pas? Et donc c'est cette responsabilité qu'il faut pouvoir assumer et il faut pouvoir l'inventer. On n'est pas dans une posture manichéenne, plus moins noir blanc. Non, tout est dans la nuance et c'est toute la difficulté du travail. Enfin, les premières propositions que nous allons faire, je pense qu'ils vont continuer à être retravaillés après le mois de mars.
Et vous pouvez déjà parler des premières propositions que vous pouvez faire?
Non, parce que elles sont encore en gestation. Elles doivent être encore retravaillées avec des provinciaux, avec les conseils de la CEF et de la COREF.
Dans votre groupe de travail, qui est membre de votre groupe de travail?
Ben là, nous sommes l'un des plus gros groupes puisque nous sommes 13, n'est-ce pas? Et nous sommes d'horizons complètement différents. Il y a des pères abbés d'abbaye bénédictine, il y a des supérieurs de communautés enseignantes, il y a des psychiatres, voilà, il y a des gens d'horizons complètement différents et des personnes qui ont des expériences d'église complètement différentes aussi. Donc c'est en ça que c'est extrêmement intéressant.
Là-dedans, c'est quoi?
On est majoritaire.
Majoritaire.
Et les femmes, bonne question, les femmes, il y en a quatre, voilà, quatre femmes.
C'est vous qui avez coopté les gens?
C'est ça?
C'est vous qui avez coopté les gens? Vous,
oui,
personnellement?
Oui, ouais. Oui.
Pardon, la question?
Alors oui, alors chaque groupe est accompagné par un évêque. Il se trouve que le nôtre, c'est François Bustillo, l'évêque d'Ajaccio. Et a au moins une victime. Alors nous, on a eu une victime de foi et résilience qui était arrivée dans le groupe en tant que telle. Et puis, nos échanges évoluons. Il y en a une deuxième qui s'est révélée. Voilà.
Qu'est-ce que veut dire que le groupe est accompagné par un évêque?
Alors, la position de l'évêque est de... comment dire? Il est plus dans l'écoute de ce qui est dit, d'accord, dans le questionnement de ce qui est proposé, que dans la direction autoritaire, surplombante, non, du tout.
C'est-à-dire qu'il prend part au débat comme les autres ou il...
Alors ça dépend des groupes.
Le vôtre?
Le vôtre, le nôtre, oui. Il prend part au débat.
Très bien, merci. D'autres questions?
Oui, alors...
D'abord là-devant, puis ensuite vous derrière. Et puis ensuite vous derrière. Vous là.
Bonjour, Laurence Poujade, présidente de l'association Sentinelle. Donc j'ai organisé ici au Centre Sèvres un débat où vous évoquiez la psychologue, donc Lorraine Angenot. C'était un débat sur les abus sexuels. Nous avons fait venir l'archevêque de Paris aussi. Je suis aussi membre d'un des groupes de parole de la Conférence des évêques de France, le groupe numéro 1 sur l'accueil des victimes avec Monseigneur Gobillard. Et ma question, c'était pour Madame, pour Sœur Christine Danel. Vous avez parlé de la vulnérabilité et vous l'avez associée automatiquement à la fragilité, donc aux séminaristes et puis aux religieuses en formation. Et ce que nous voyons aussi, puisque notre expérience associative remonte à 25 ans, c'est qu'il y a une autre forme de vulnérabilité qui s'exprime aussi avec des religieuses plus âgées ou des personnes plus âgées qui peuvent avoir en fait un une situation de une personnalité qui fait que un prêtre passe à l'acte de façon violente, et cette violence physique, elle est assez souvent méconnue, parce que on voit bien dans la guerre souvent le viol c'est aussi une forme de domination et d'humiliation. Donc est-ce que vous intégrez aussi que dans la vulnérabilité il puisse y avoir de multiples facettes, ou est-ce que vous l'alliez automatiquement à la fragilité?
J'ai pas souvenir d'avoir employé le mot fragilité, mais je consonne tout à fait à ce que vous dites, c'est-à-dire d'abord on peut tous être en situation, j'allais dire, vulnérable à un moment donné de notre vie. Et donc, c'est pas seulement les jeunes en formation. On est particulièrement vulnérable, entre guillemets, pendant une période de formation. Mais évidemment, ça peut survenir à n'importe quel moment de la vie. Un passage difficile, la mission qui est un peu compliquée, la vie communautaire qui est difficile, la solitude dont on parlait tout à l'heure pour les prêtres. Donc, c'est en même temps, on est vulnérable à des agressions et en même temps, on peut davantage faire des agressions parce que soi-même, on est en difficulté. Donc tous ces aspects-là, malheureusement la liste est longue, et donc il y a pas de, c'est pas du tout, c'était pas exhaustif.
La base arrière.
C'est une question pour Christine Danel, parce que vous avez dit qu'il y avait un vrai travail à faire pour articuler justice et miséricorde. Vous avez parlé de la juste sanction, et peut-on garder à l'état clérical, et que vous êtes étonné de la faiblesse des sanctions. Et moi je vous rejoins là-dessus. Et ma question, c'est pourquoi ne va-t-on pas plus vite dans la prise de sanctions ? Parce que la crédibilité de l'Église, elle est basée là-dessus. Et que si on n'y arrive pas, on perd toute crédibilité. Donc pourquoi ne va-t-on pas plus vite dans la prise des sanctions ?
De ce que je comprends, il y a quand même beaucoup de difficultés à plusieurs niveaux, en fait. Ce que je disais tout à l'heure sur des évêques qui sont seuls et qui ont du mal à... Alors maintenant, je pense que quand même, il y a des progrès notables qui sont faits, c'est-à-dire si quelqu'un est mis en cause, il y a immédiatement ou très rapidement le procureur qui est saisi et des enquêtes qui sont faites. Enfin, en tout cas, j'ose espérer. Mais en tout cas, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, la justice, en tout cas civile, elle est prise assez rapidement. Après, la justice canonique, mais alors là, il faudrait que je parle sous contrôle de gens qui s'y connaissent un peu mieux que moi, parce que je ne suis pas spécialiste en la question, mais il semble que pour traiter sur le plan canonique, en tout cas pour renvoyer quelqu'un de l'état clérical, ça ne se passe pas forcément ici, mais j'ai l'impression plutôt à Rome. Je ne dis pas de bêtises, ceux qui s'y connaissent. Et que là, ben, il y a des choses qui nous échappent un petit peu et qu'on ne sait pas forcément la durée, la rapidité des procédures qui sont faites à Rome. Et alors après, la justesse des sanctions, moi je ne suis pas canoniste et je ne suis pas juge. Moi je dis simplement que je trouve très étonnant que des personnes qui ont fait des crimes soient encore claires. Je ne comprends pas, en fait. Et encore une fois, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas s'occuper des personnes. Donc il y a peut-être une difficulté aussi à se dire, bah alors si on renvoie quelqu'un de l'état clérical, qui va s'en occuper ? Et un peu une confusion, me semble-t-il, entre la responsabilité de l'Église à suivre les personnes auteurs de crimes et puis les garder dans l'état clérical. Mais pour les laïcs que nous sommes, moi je trouve ça totalement illisible comme façon de faire. Parce que voilà, on a besoin d'une forme de confiance et de rendre l'Église crédible et de se dire que ben voilà, quand on va voir un prêtre, on voudrait être sûr qu'il n'est pas un casier judiciaire, quoi. C'est aussi bête que ça. Donc et encore une fois, ça n'ôte pas la responsabilité de l'Église pour suivre les auteurs et les personnes qui ont été mises dans ces situations. La plupart du temps, ont subi eux-mêmes des violences dans leur enfance. Je veux dire, c'est pas du tout un jugement sur les personnes elles-mêmes qui sont auteurs de crimes. Mais c'est pour crédibiliser pour nous rendre crédibles, quoi, tout simplement.
Monsieur, au milieu.
Oui, on a parlé très longuement du scandale des abus. J'ai le sentiment qu'on a un tout petit peu occulté le qualificatif de ces abus, c'est-à-dire les abus sexuels. Bien sûr, il y a un problème qui est clair, qui est un problème de cléricalisme derrière tous ces processus qui touchent des clercs. Et du coup, on a beaucoup parlé de problèmes de type canonique. Mais en même temps, si la crédibilité de l'Église passe par peut-être la rapidité des sanctions, peut-être que la crédibilité de l'Église est encore plus affectée par ce que un rédacteur en chef d'une revue bien connue ici, le Père Evé, écrivait dans la livraison de ce mois-ci. Je lis très rapidement. Nous savons, on ne peut qu'être frappé par le contraste entre une morale rigide et des pratiques cachées qui la contredisent. Parlant de la sexualité. Est-ce que on va pouvoir faire l'impasse d'une reprise ou d'une remise à niveau ou d'une relecture d'une éthique autour de la sexualité?
Réponds. Vous pouvez.
Sujet chaud. Ben oui, il faut l'aborder, la question de la sexualité, c'est sûr. Mais je trouve que le contraste que citait François Evé, c'est le contraste entre une morale rigoriste et puis des comportements cachés. C'est ça qui est insoutenable. Aujourd'hui, ben voilà, la sexualité, on en parle dans beaucoup de milieux, mais la difficulté qu'on a dans l'Église, c'est on a l'impression que plus on a une morale rigoriste, plus il faut aller regarder de plus près ce qui se passe derrière, quelque part. Donc, bon, après, voilà, l'éthique sexuelle, il y a un grand sujet à aborder. J'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ce que disait Théophile, c'est-à-dire du désir, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, on a tellement mis la sexualité du côté du péché qu'on est, il y a quelque chose qui est profondément malsain. Il y a une humanité à retrouver, la beauté de la sexualité, la beauté du désir, la beauté de l'altérité, de cette vulnérabilité que nous fait vivre notre sexualité. Et pour ça, bah, il faut le regarder, il faut en parler, quoi. Et de fait, il y a un grand chantier, je crois.
Théophile ?
Mais ceci dit, excusez-moi, je voudrais quand même... Il y a beaucoup sur la sexualité, mais la question, elle est davantage du côté du pouvoir que de la sexualité, même si les deux vont ensemble, bien sûr, mais à mon avis, dans l'Église, notre question, elle est quand même davantage sur la... Enfin, elle n'est pas davantage, elle est majoritaire.
Juste un mot, avant peut-être prendre une dernière question, je ne sais pas, Vincent. Moi, il me semble la dissonance que vous pointez entre une éthique très exigeante et le soupçon qui est de plus en plus étayé d'une sorte d'une forme de laisser-faire, voilà, d'hypocrisie institutionnalisée, en disant bon, on passe sur des pratiques, on passe sur le mensonge. En fait, c'est la question du mensonge derrière, c'est ça le scandale. Parce qu'il faut bien faire tourner la boutique. Et moi, je trouve que c'est un témoignage, enfin un contre-témoignage épouvantable, enfin du manque de foi. On dit bon, parce qu'il faut faire tourner l'institution, on cautionne le mensonge, on se compromet. Moi, j'ai l'impression que il faut être beaucoup beaucoup plus intransigeant. Enfin, faut aller jusqu'au bout de l'intransigeance. On va dire si notre éthique est exigeante, que l'exigence aille jusqu'au bout, quitte à ce que l'institution s'écroule c'est la sainteté qui sauve. Enfin, c'est ça qui sauvera l'Église. Si vraiment on croit que l'Église a les promesses de la vie éternelle, c'est pas en mettant des rustines sur une institution qui s'écroule et en cautionnant un mensonge que on va témoigner de l'Évangile.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, ici, Madame. Désolé, après il y aura plus de questions. Il est déjà moins le cas.
Oui, juste une remarque là. Il se trouve qu'en venant, je suis passée devant une église du 5e, donc une église parisienne lambda, et il y a une affiche « Stop aux abus sexuels » et il y a écrit le mot pédophilie, mais c'est de pédocriminalité qu'il faut parler. Donc je ne sais pas quand ce papier qui est grand, enfin c'est une affiche très grande sur fond rouge, je ne sais pas qui a décidé du mot à utiliser. C'était un peu pareil comme un des thèmes qui avait été traité ici. On parlait de reconnaissance. En parlant des abus sexuels, reconnaissance, je trouvais ça ambigu. Donc, je sais pas, est-ce que vous pouvez demander à des étrangers, entre guillemets, du pur vocabulaire canonique. Et l'autre chose, monsieur, docteur Gagnon, vous avez parlé de médecins et de magistrats. Je voulais savoir si c'était des magistrats là, en retraite ou qu'il y avait une formation spéciale en théologie ou à la foi, ou c'était que des volontaires, et au nom de quoi ils ont le droit de raisonner. Et est-ce que vous inspirez de ce qui est fait au Québec, qui s'occupe beaucoup plus des victimes que nous, parlons des agresseurs, je voulais dire.
Alors, les magistrats sont dans notre groupe, et ils sont un peu satellites parce qu'ils sont tellement pris qu'ils ne participent pas à tous nos travaux. Mais ils ont bien leur certificat de baptême patenté, n'est-ce pas? Voilà. L'autre partie de votre question, c'était sur le Québec. Oui, alors le Québec, on s'y intéresse de très près. Une d'entre nous, présente ici, a longtemps travaillé au Québec et nous rapporte les expériences québécoises. Surtout auprès des auteurs, effectivement. Voilà. Alors là, on ouvre un chapitre extrêmement, extrêmement long. Je crois que je n'aurai pas le temps de vous y répondre. La grande spécificité, en fait, elle tient à deux choses. La première, c'est le poids du discours moral qui vient tout occulter. Et la deuxième, c'est le silence, la solitude qui l'entoure.
Sur la question de la pédophilie, effectivement, vous avez raison. On a employé ce terme à tort. Et effectivement, en tout cas, à la Croix, on essaie d'en faire la chasse et de parler de pédocriminalité. Vous avez raison, je veux dire, c'est de la pédocriminalité. Une dernière question, comme ça. Monsieur, là. Oui, on peut ou pas? Les micros ont déjà été rangés? Allez-y, mettez-vous debout et posez votre question très fort. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Je vais annoncer le prochain mardi d'éthique qui aura lieu le mardi 10 janvier. Et on va changer de sujet puisque le titre de travail pour l'instant, c'est « Le chauffage est-il un droit ?» Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui risque de souffrir de froid cet hiver, et c'est une vraie question de se dire comment faire pour que des personnes ne meurent pas de froid cet hiver. Je vous remercie.